Question d'islam par Ghalib Bounchir. Aujourd'hui, nous parlons de philosophie dans les contextes islamiques et tout particulièrement en Andalousie. Nous parlons même de ce que d'aucuns pourraient présenter comme un temps inaugural d'une nouvelle façon de voir et de spéculer en philosophie à partir du conte philosophique ou du roman. Le vivant fils de l'éveillé, peut-être sans l'article même, vivant fils d'éveillé, avec le professeur Jean-Baptiste Brenet. Jean-Baptiste Brenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiéviste, vous êtes professeur de philosophie arabe à Paris 1, Sorbonne, et vous êtes spécialiste d'Averroès et de philosophie andalouse. Est-ce qu'on peut donner des épithètes comme ça selon les lieux à la philosophie ?
C'est une question très difficile, l'usage des adjectifs pour qualifier l'objet qui rassemble un certain nombre de chercheurs. Est-ce qu'on l'appelle musulmane, arabe, islamique, arabo-musulmane, andalouse,
occidentale,
c'est
chinoise.
Une question délicate. Là, c'est juste pour situer une région qui a quand même ses caractéristiques. On n'a pas le même corpus en Andalousie qu'en Orient, et une époque, disons, la fin du XIe siècle et tout le XIIe siècle en particulier.
Alors, nous parlons aujourd'hui, si vous voulez bien, et vous êtes un fin connaisseur à la fois de cette période de l'histoire et de cette région du monde, de l'Andalousie, de la philosophie qui s'y pratiquait. Je l'ai dit, vous êtes un fin connaisseur d'Averroès, mais là, nous parlons plutôt de son maître. Ibn Tufayl, 1110 à Cadix, mort à Marrakech en 1185. Ibn Tufayl, c'est le Abou Bakr des Latins ?
Oui et non. En fait, le Abou Bakr des Latins ou Abou Basr des Latins, c'est Ibn Bajjah en vérité.
Ah oui.
Mais il est vrai qu'il partage ce prénom.
Le avant-passe des Latins.
L'avant-passe des Latins. Donc il y a cette confusion qui est faite, qui a peut-être existé chez des lecteurs puissants comme un Albert le Grand. Mais c'est en vérité à Ibn Bajjah souvent qu'on doit penser derrière Abou Basr. Ibn Tufayl, les scolastiques ne l'ont pas connu. Les rares traces qu'ils auraient pu en trouver, c'était dans quelques œuvres d'Averroès qu'ils le citent à deux ou trois reprises, mais directement ils n'ont pas affaire à ces textes, et donc ça n'est vraiment qu'un nom dans les traités de scolastique, mais sans texte sous les yeux.
Alors qui est Ibn Tufayl ? Un médecin, un philosophe, un érudit, un astronome ?
Un peu tout ça à la fois. Il a combiné tous ses talents et tous ses métiers. On sait peu, comme souvent, sur le début de sa vie. Donc la date exacte de sa naissance, on ne l'a pas. On sait qu'il est né dans cette ville, Guadix, à peu près 60 km au nord-est de Grenade, donc dans le premier quart du XIIe siècle. Il a été médecin à Grenade, il a commencé ses études de médecine et sa pratique de la médecine à Grenade, ça on le sait. Et il apparaît en 1147, de manière officielle, lors d'un voyage à Marrakech, où il n'est qu'un accompagnateur au début, alors que Abd al-Mumin est le chef almohade en place. Et puis, à partir de là, va s'engager une belle carrière. C'est un homme de pouvoir, incontestablement. En 1154, il est un conseiller d'un administrateur à Tanger et à Ceuta. Et puis, il va être repéré par le fils de Abd al-Mumin, c'est-à-dire Abou Yaqub Yusuf, qui va en faire son médecin personnel, ce qui est dire en quelle estime il le tenait. Et d'ailleurs, lorsqu'il meurt en 1185, le fils d'Abou Yaqub, Abou Yusuf Yaqub, présidera à ses funérailles. Donc au fond, tout au long de sa vie, à partir de la fin des années 40, c'est un homme très présent dans le cercle d'intime du pouvoir. Alors qu'a-t-il fait de la médecine ? Oui, donc, c'était même sa fonction officielle. Il a beaucoup écrit, semble-t-il, sur l'astronomie. L'un de ses étudiants est un célèbre astronome d'abord, d'ailleurs. Il a écrit sur l'âme. Il a écrit sur la métaphysique, sur la théologie, mais tout cela a disparu. Il ne nous reste de lui que deux poèmes, et l'un est incomplet. Un poème guerrier pour galvaniser les tribus arabes, et un poème, long poème de médecine incomplet. Et puis ce texte, ce qu'on appelait jadis roman philosophique, ce conte philosophique, une sorte de fable, donc en arabe « Hay ibn Yaqdan », c'est-à-dire « vivant fils d'éveillé, fils de vigilant, fils du veilleur » si on a l'article. Et c'est par cet unique texte singulier dans l'Andalousie philosophique qu'il nous est connu, qu'il va bouleverser d'une certaine manière l'histoire et qu'il est encore présent avec nous.
Alors on parlera bien entendu d'Ibn Tufayl, mais surtout de son œuvre qui, à juste raison, vous le dites, bouleversera l'histoire et l'histoire de la philosophie et de la pensée humaine. Mais nous avons toujours une question à propos du souverain Abou Yaqub Yusuf, dont on dit qu'il est un calife ou un souverain, un émir ou un commandeur des croyants de la dynastie Al-Mu'ad, qui est connu plutôt par son rigorisme et ses approches drastiques. Et pourtant, l'homme est aussi lui-même un fin lettré et qui encourage l'étude de la philosophie.
Oui, absolument. C'est l'un des paradoxes de l'almohadisme, une certaine rigueur, une fermeté dans l'orthodoxie. C'est même à l'origine ce qui a conduit Ibn Tumart à renverser le pouvoir almoravide. Et puis, dans l'ordre intellectuel, une forte valorisation de la rationalité. Et en l'occurrence, peut-être de façon tout à fait providentielle, chez cet homme-là, le désir d'appuyer le développement du péripatétisme, de la philosophie inspirée d'Aristote, inspirée des Grecs, une philosophie étrangère, d'une certaine manière. Et effectivement, vous avez raison de le rappeler, Ibn Tufayl n'est peut-être pas le maître au sens où c'est de lui que serait venue la doctrine d'Averroès, mais il est son aîné, et c'est lui qui le présente au prince.
C'est Averroès qui le raconte.
Voilà, Averroès le racontera, et l'histoire est assez célèbre, puisque c'est le prince qui lui demandera de poursuivre son exégèse, ses commentaires d'Aristote, pour rendre cet Aristote manifestement passionnant, mais à l'évidence très obscur, un peu moins obscur pour le lecteur immédiat. Donc il y a une belle, pour l'histoire de la philosophie, c'est un moment clé évidemment qui s'est joué là, autour de ce souverain, de ce premier philosophe et de cette sorte de, non pas de disciple, mais de collègue un peu plus jeune que fut Averroès.
Pour l'anecdote, je ne m'empêche pas de la raconter sous votre contrôle, c'est qu'Averroès ne voulait pas trop apparaître comme celui qui sait être un bon exégète du stagirite, parce qu'il ne savait pas auprès de qui est-il.
Absolument, c'était une question sur les cieux. La première question qui lui a été posée, c'était de savoir ce qu'Aristote pensait des cieux au-dessus de notre tête et inférieurs à Dieu, de la manière dont ils tournaient, de leur composition. Et Averroès fut d'abord très prudent, avant de comprendre que la question relevait d'un intérêt véritable et que celui qui l'a posée avait déjà quelques notions assez précises. Et donc, dans ce climat de confiance, qui ne durera peut-être pas toujours, mais Averroès a libéré sa parole et s'est franchement engagé dans son entreprise de commentateur.
Peut-être une dernière question à propos de la philosophie, cette fois-ci d'Ibn Tufayl. On dit qu'elle serait plutôt de veine ou de facture néoplatonicienne que aristotélicienne.
Absolument, c'est ce qui est fascinant aussi, c'est combien ces deux hommes, Averroès et Ibn Tufayl, qui sont contemporains, qui travaillent pour le même pouvoir, qui se connaissent, n'ont pas la même philosophie en vérité. Averroès, autant qu'il est possible, essaie de suivre Aristote de façon la plus pure qui soit. Lorsque Ibn Tufayl, lui, est plus néoplatonicien, c'est-à-dire d'abord un lecteur d'Avicenne. Au fond, sa grande référence, c'est Ibn Sina, qui est mort en 1037. Et donc, il tient d'Ibn Sina un système émanatiste, par exemple. Donc, le monde n'a pas été créé, mais il émane d'un premier principe. Et puis, toute une série de points de doctrine très forts sur la question du corps, le rapport au corps, sur la question de l'intelligence, sur la question de la félicité et de l'accomplissement intellectuel. Sur tous ces points, c'est plutôt une ligne Platon, Plotin, en tout cas le Plotin arabe Avicenne, que dont Ibn Tufayl sera l'héritier, sa caractéristique théorique étant d'ajouter à cela une couche de complexité supplémentaire, puisqu'il est aussi lecteur d'Al-Ghazali, ce théologien polygraphe un peu ambigu, hein, grande figure du pouvoir et en même temps adversaire de la philosophie, d'un certain point de vue.
En utilisant des moyens philosophiques,
ce qui est étonnant. En utilisant, paradoxe supplémentaire, des moyens philosophiques. Et Ibn Tufayl associe Ghazali et Avicenne. Et puis aussi, dernier élément de son syncrétisme philosophique, qui rend assez complexe la délimitation précise de sa doctrine, le soufisme. C'était un soufi, en vérité, il est soufi, Ibn Tufayl, mais c'est un soufi qui ne place pas le soufisme comme une voie qui serait alternative à la philosophie, mais qui ferait plutôt du soufisme bien compris une sorte de couronnement, d'achèvement de la pratique philosophique telle qu'il l'envisage.
Ou une forme de théosophie, ou une forme de gnose.
Oui, ce sont les termes qu'on a employés et qui, en vérité, l'écartent complètement de son modèle avicénien. Alors, consciemment ou inconsciemment, il est très évident qu'il transforme Avicenne, lequel, et qu'il s'éloigne complètement d'Averroès et d'Ibn Bajjah, de ces deux-là andalous, parce qu'ils n'ont eu de cesse de critiquer le soufisme. Pour eux, le soufi, au fond, est un homme d'imagination, un homme à l'imagination exaltée qui confond un petit peu ses fantasmes avec la perfection absolue. Et Avicenne, lui, ne cesse de penser la réussite de l'homme et la clé de son système dans un cadre épistémologique dur, logique, et on ne sort jamais de la logique. Alors que Ibn Tufayl, lui, considère qu'il ne faut pas négliger la logique et le cursus philosophique, mais que, en son sommet, la philosophie débouche sur une forme d'expérience. En arabe, c'est un terme un peu difficile à traduire, qui est la mushahada, d'expérience, d'intuition, de vision directe, qui nous...
Presque de témoignage.
Oui, bien sûr, ce à quoi on assiste, ce à quoi on fait face, et qu'on goûte, pour reprendre un terme à la fois avicénien, ghazalien et soufi, on a le dhawq, le goût de ce à quoi on fait face, et que saisissait aussi le philosophe, mais sous une forme démonstrative, syllogistique, discursive, et un peu froide, au fond, dirait Ibn Tufayl, pointant qu'il y a là une différence du même ordre que celle qui existe entre savoir ce qu'est l'ivresse et être ivre, savoir ce qu'est le sucre et manger du sucre, et l'exemple est décliné.
Oui. Alors, j'ai dit que ça allait être ma dernière question à propos de Ibn Tufayl, mais en vous écoutant, je ne m'empêche pas non plus de revenir à cette notion de saveur, et je le dis sous votre contrôle, vous diriez que la philosophie d'Ibn Tufayl est matinée de toute l'œuvre des scolarques néoplatoniciens comme Ammonios, Porphyre, Jamblique, et pour finir avec Plotin. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à la maturité philosophique.
Alors la question de savoir quel est le corpus néoplatonicien arabe, d'abord en Orient, et puis quelle partie de ce corpus arrive dans l'Occident arabe, est très délicate. Donc il n'a certainement pas rapport à des textes précis d'un Ammonius sur Porphyre. La question est encore plus discutée. Ce que l'on sait facilement, c'est que les bribes de Proclus, de ces éléments de théologie qui ont été traduits, et puis les trois dernières Énéades qui ont paru dans le monde arabe sous ce titre trompeur de théologie d'Aristote.
Oui. Donc, qui est bien plus tard que qu'Aristote lui-même.
Voilà, donc on en sait peu, mais cette dimension gustative, cet aspect, disons, mystique entre trois paires de guillemets, parce que le terme est délicat et on peut, à partir de là, bâtir des compréhensions très diverses, il pense la trouver chez Avicenne, combiné à Ghazali et au soufisme. Donc c'est lui, en fait, qui opère ce mélange un peu inédit et surtout détonnant dans l'Andalousie péripatéticienne, parce que les deux autres grandes figures, Ibn Bajjah et Ibn Rushd, sont des péripatéticiens. Donc c'est lui qui opère cela. Donc il y a, si vous pensez à un texte comme les Isharat d'Avicenne. Il y a à la fin de ce texte...
Les Isharat sont les allusions.
Voilà, en français, c'est traduit par le livre des directives et des remarques. Donc un texte de la fin de carrière d'Avicenne, un grand texte, mais qui est à la fin, qui donne, dans un lexique un peu inédit, un peu extra-philosophique, l'impression que tout s'achève dans une forme d'expérience directe de l'absolu. Ce qu'on appelle, avec la reprise d'un terme latin, la fruition, le fait de savourer, de goûter, de jouir de l'objet, et non pas seulement de le connaître. Au fond, il ne s'agit pas simplement de savoir, mais de voir ce qu'on sait, d'en faire l'épreuve. Et c'est sur la base donc d'un Avicenne transformé, reconfiguré, qu'Ibn Tufayl propose dans son texte ce point d'achèvement de l'humanité et de la philosophie.
Alors revenons à notre roman philosophique, ce conte philosophique, à cette histoire extraordinaire du vivant fils d'éveillé, fils du vigilant, fils du conscient, fils du veilleur. On est toujours d'un autodidacte philosophique aussi. Il aurait lu, ou il avait lu cela chez Avicenne, en prenant en tout cas les noms des protagonistes, et ça lui vient via, ou par le truchement d'Avenpass, en réalité.
La question de savoir, il est très évident, il le dit explicitement, qu'il emprunte les noms de son conte, c'est-à-dire d'abord le personnage principal vivant, fils d'éveillé, puis Absal et Salaman, l'un qui sera le disciple Absal venu sur son île, et Salaman qui sera le roi de l'île voisine gagnée par l'islam. Il dit explicitement emprunter les noms à Ibn Sina, à Avicenne, lequel, effectivement, outre ses traités de philosophie, a composé quelques petites œuvres d'allure symbolique, faisant intervenir ces personnages-là. Est-ce qu'il a lu directement ces textes? La question est discutée, il est fort probable que non. Mais Avicenne lui-même écrit dans l'un de ses textes que, au fond, c'est au lecteur de prolonger l'histoire et d'essayer d'interpréter à partir des quelques indications qu'il laisse sur ses personnages, d'interpréter ce dont il retourne. Donc, au fond, avec ce roman, Ibn Tufayl n'aurait rien fait qu'accomplir la demande de réécriture de son propre projet d'Avicenne. Donc, il est peu probable qu'il ait eu affaire au texte d'Avicenne. Je ne sais pas si c'est Ibn Bajjah qui l'a lu. Ce qui est certain, c'est que quand on compare les textes d'Avicenne que nous pouvons lire, nous, et ceux d'Ibn Tufayl, la différence est très nette. Puisque, pour ne donner qu'un exemple, le texte de Ibn Yaqdhan d'Avicenne parle de l'âme humaine, qu'il rencontre un vieillard qui s'appelle vivant fils d'éveillé. Ce vieillard, c'est, dans la tradition philosophique, puisque l'échange des termes est possible, ce qu'on appelle l'intellect agent, qui prend, si je puis dire, par la main l'âme humaine pour la faire voyager à travers l'univers et lui montrer la vérité des choses. Chez Ibn Tufayl, rien de cela, puisque vivant fils d'éveillé, c'est un homme. Ça n'est plus une intelligence cosmique qui rencontre l'âme humaine, c'est un homme comme vous et moi, sur une île qui, par étapes, va découvrir la vérité des choses. Donc cette simple chose-là, quand même, indique que s'il a lu les textes, alors il a absolument tout réécrit à sa mode, à sa façon, et on a affaire à tout autre chose. Donc il y a une filiation revendiquée, mais une véritable, encore une fois consciemment ou pas, une véritable création littéraire et doctrinale.
France Culture, Question d'Islam, Khaled Bencher.
Et nous parlons aujourd'hui du conte philosophique Vivant fils d'éveillé. Je ne mets pas tout comme vous, Jean-Baptiste Brenet, les articles. Vous êtes professeur de philosophie arabe à la Sorbonne. Vous êtes médiéviste, spécialiste d'Averroès et de philosophie andalouse. Et nous parlons aujourd'hui donc de ce qui est totalement impropre, mais ça ne parlera pas aux auditeurs si je dis une Robinsonnade d'avant la lettre. Mais en tout cas, dans le temps, ce serait un anachronisme si on parle de Robinson. C'est Hay ibn Yaqdan, donc vivant fils d'éveillé, qui a bien précédé Robinson et Vendredi. Alors, de quoi s'agit-il au juste, Jean-Baptiste Brenet ?
Alors, ce texte qui a été écrit à une date inconnue, on proposait jadis une date plutôt, loin de la fin de carrière d'Ibn Tufayl, 1169, certains parlent au contraire de 1180. Ce texte, c'est une lettre, une épître. C'est une lettre qu'Ibn Tufayl lui-même écrit à un ami, un destinataire inconnu sur lequel on peut rêver. Qui est-il ? Le prince, ou chacun de nous peut-être, une lettre qu'il adresse à cet homme qui fait figure un peu de disciple, qui lui demande de révéler un secret. Et le secret serait celui que contiendrait la philosophie orientale d'Avicenne. La philosophie orientale, c'est un ensemble de textes aujourd'hui perdus d'Avicenne, et dans lesquels Avicenne aurait exprimé la vérité à nu, la vérité sans confusion, aurait livré la pulpe des choses sans les corps inutiles qu'il aurait employés ailleurs. Ça n'est pas du tout ce qu'Avicenne prétend lui-même, mais c'est ainsi que les choses sont présentées. Et donc, l'homme qui écrit à Ibn Tufayl et auquel il répond, lui demande la révélation de ce secret. Et cette lettre, donc ce texte, va consister en cela. Ce à quoi on va assister, ce qu'on va lire, c'est à le récit, la divulgation d'un secret. En vérité, le texte aura d'autres enjeux. Il est un peu plus complexe que cela, puisque très vite, Ibn Tufayl dira que, à l'occasion de cette demande, lui est venu d'éprouver un état d'expérience mystique dont il a envie de parler. Donc au fond, le récit n'est plus tellement la révélation du secret d'Avicenne, mais une sorte de description de l'état que cette demande a permis à Ibn Tufayl lui-même d'éprouver. Et puis, à la fin du texte, il dira qu'il a écrit aussi parce qu'en ces temps un peu troublés où des fous qui quittent les prophètes pour suivre des pseudo-philosophes, eh bien, à ces gens-là, perdus et dangereux, il faut faire briller devant leurs yeux une lueur de vérité, leur montrer ce qu'il en est vraiment du vrai, pour les remettre dans le droit chemin. Donc il y a ces trois lignes un peu dans le texte qui en constituent l'objet. Quant à l'histoire elle-même, donc Ibn Tufayl dit « Tu veux savoir ce dont il s'agit dans l'univers pour comprendre ce que c'est que la vérité du monde ?» Eh bien, pour te répondre, et tu t'en étonneras peut-être, je vais te raconter une fable dont j'emprunte les termes principaux à Avicenne, une fable qui raconte l'histoire d'un homme vivant fils d'éveillé. Cet homme, il est né, on ne sait pas trop comment. Deux hypothèses sont faites, soit il est le fils d'une princesse sur une terre voisine, qui aurait dû abandonner son fils, le livrer aux eaux, parce que son frère, le roi de l'île, était jaloux et au fond ne souhaitait pas que sa sœur entretienne quelque relation que ce soit avec un homme, et surtout ne souhaitait pas qu'elle mette au monde un rival potentiel. Soit cet homme est né par génération spontanée sur cette île située sous l'équateur, une île de l'Inde, lointaine, sous le soleil exactement. Et quoi qu'il en soit de ces deux hypothèses, et très probablement que la solution que retient le philosophe Ibn Tufayl, c'est celle de la génération spontanée, un thème dont on débat beaucoup à l'époque. Et le débat est fort parce que dans l'histoire, on oppose sur cette question Ibn Sina, Avicenne et Averroès, et ce qu'on prête à Ibn Sina, thèse forte que défend donc Ibn Tufayl, c'est la possibilité qu'un homme puisse naître d'un peu de terre en fermentation. Donc, quoi qu'il en soit de ces deux versions, l'homme vivant paraît sur cette île sans parents, soit qu'il ait été abandonné, soit qu'il n'en ait jamais eu, et il sera recueilli par une gazelle qui sera sa mère et qui va l'élever.
Qui le couve et qui l'allaite.
Qui le couve comme le faon qu'elle a perdu, elle l'allaite, elle lui apprend tout, et l'enfant, au milieu des bêtes, se pensant d'ailleurs bête lui-même, et une première partie du texte est consacrée à son hominisation, il doit découvrir sa propre humanité, une longue première partie du texte, qui est découpée en tranches de 7 ans,
5 fois 7.
Voilà, va nous conduire, va conduire cet enfant, va décrire les étapes par lesquelles passe cet enfant et qui le conduisent de la non-science, de l'ignorance absolue, quoique son naturel, sa fitra, soit excellente. Hein. C'est un enfant qui est extrêmement
sa
bien doué.
Sa prime nature.
Sa prime nature, sa nature primordiale est excellente. Et le texte, donc dans une longue première partie magnifique, décrit les étapes par lesquelles cet enfant va passer, donc de 0 ans jusqu'à 49 ans ou 50 ans, et le conduisent, ces étapes, de l'inscience, de l'ignorance qui nous caractérise tous, jusqu'au savoir absolu, en quelque sorte.
En réalité, peut-être que j'anticipe là, l'idée c'est que de la non-connaissance ou de cet état où on ne sait rien, on accède au divin par la raison.
Absolument, c'est un corps qui naît au milieu d'autres corps dans la nature et qui, ne sachant rien, n'étant doté de rien d'autre qu'une bonne mémoire, une bonne capacité de réflexion, d'un désir de connaissance, eh bien cet enfant va progressivement, d'abord dans le rapport à sa mère, puis dans l'expérience de la mort de sa mère, dans l'expérience de sa nudité.
Mais il va disséquer le cadavre.
Le cadavre, comprendre ce que c'est que le corps. Cœur, comprendre ce que c'est que le souffle qui anime le corps, comprendre comment les corps à la fois sont tous divers et tous unis, tous un, comment le monde est une dissémination de réalités variées et en même temps des sortes d'expressions d'une seule et même réalité. Donc ce que Ibn Tufayl fait, c'est que vraiment il nous décrit les étapes dans l'ordre de la physique, d'abord un peu de zoologie, un peu de botanique, un peu de psychologie, un peu de minéralogie, puis nous basculerons dans l'ordre céleste. Cet homme fera l'expérience des cieux, de l'astronomie, pour accéder effectivement à ce qu'il ne nomme pas Dieu au début, mais qu'il appelle d'un terme avicennien l'être nécessaire, l'agent premier dont tout le reste dépend, sur lequel il va s'interroger. Qui est-il? Quels sont ses attributs? Comment le nommer? N'oublions pas que, pour autant, cet homme ne parle pas, il n'a pas de langue. Comment a-t-il créé, produit le monde? Comment les choses dépendent de lui? Et quel rapport devons-nous entretenir à lui? Et ce qui se joue dans cette description qui porte jusqu'au savoir absolu, c'est la félicité, c'est le bonheur. Enfin, c'est un texte qui décrit, en accentuant comme c'était la règle dans l'Andalousie de l'époque, la dimension intellectuelle de l'homme, il décrit l'accès de l'homme à la pleine humanité. Au fond, c'est en deux grandes étapes. Comment l'homme de bête devient homme et d'homme devient parfaitement homme. Et devenir parfaitement homme, c'est devenir
l'homme accompli.
L'homme accompli, devenir un parfait savant. Un parfait savant, c'est-à-dire un homme qui a traversé toutes les sciences en ordre pour accéder à l'intuition de l'agent de l'univers. Et il faut tout faire en sorte pour que cette intuition soit continue, permanente et arrache son sujet, arrache l'homme, sujet de cette intuition, à la corruptibilité de son corps et du monde situé sous la lune. Donc c'est, au fond, la description d'un devenir immortel de l'individu, une description du devenir philosophe de l'individu. C'est un texte qui nous dit, qui nous explique comment l'on devient heureux, comment l'on devient savant, comment l'on devient immortel, comment l'on décroche de son corps pour n'être plus qu'un intellect tout entier orienté vers la vérité. Ça, c'est la première partie du texte. Et arrivé à ce moment-là, l'homme a 49 ans, 7 fois 7, il se croit seul, il est bien heureux, il n'a pas de maître, il n'a pas de livre, il n'a pas de société, il n'a pas de religion, il n'a pas de langage. Et à ce moment-là, va arriver sur son île un autre homme. Si l'on faisait la comparaison avec Robinson, ce serait vendredi.
Oui, c'est Absal.
L'autre homme arrive, c'est Absal. Qui est Absal? Il vient d'une île voisine. Cette île est une île qui a été gagnée par l'islam. L'île entière est devenue musulmane. Lui-même est un fervent musulman. Mais il désire, c'est un homme de l'interprétation, c'est un homme qui désire percer la lettre et par le libre examen essayer d'entendre le sens véritable des symboles. Il considère que le libre examen ne peut se faire que dans la solitude. Il a entendu parler de cette île isolée au climat tempéré et idéal. Il s'y rend, désireux d'être seul pour réfléchir. Les deux hommes vont se rencontrer. Et la deuxième partie du texte, plus courte mais très puissante, très ramassée, eh bien, raconte cette rencontre avec des descriptions assez fines. Que se passe-t-il? Eh bien, le philosophe va apprendre d'Apsal d'abord la langue et va comprendre qu'au fond, la religion qui est celle d'Apsal est une religion, la religion d'un prophète véras, une religion vraie, mais qu'elle n'est que la version métaphorique, voilée, imagée, allégorique de ce que lui a démontré par sa raison seule. Apsal, de son côté, n'est absolument pas choqué par cette découverte. Au contraire, il s'enthousiasme parce qu'il réalise que ce qu'il priait, ce à quoi il avait métaphoriquement accès, eh bien, c'est ce que le philosophe face à lui a saisi dans la pureté du concept. Et donc, suite à cette découverte, caractéristique de l'Andalousie de l'époque, c'est-à-dire l'accord entre la philosophie et la religion, en l'occurrence l'islam, notre vivant est désireux de gagner l'île voisine pour convertir en quelque sorte l'île entière à la philosophie. Apsal est prudent, lui déconseille de s'y rendre, puis finalement se range à ses arguments, à sa compassion, à son désir, disons, d'humaniser ou de philosophéiser, on pourrait dire de philosophiser l'humanité entière. Haï se rend sur l'île voisine, commence à divulguer la philosophie sous forme pure. L'échec est immédiat. Quelle est la réaction du personnage? Eh bien, il se dédie, il s'excuse auprès du roi Salaman, ami d'Apsal, et il enjoint le roi et ses compagnons de respecter la religion telle qu'elle est, que ce respect de la religion leur donnera le salut. Il semble désespéré du reste de l'humanité qui s'est écartée de la religion, et il regagne son île pour, avec Apsal, adorer Dieu, dit le texte, c'est-à-dire en fait pour faire de la philosophie, jusqu'à quoi? Jusqu'au yakin, c'est le dernier mot du récit, c'est-à-dire non pas la mort, mais le certain.
La certitude, oui. C'est que Salaman est plutôt dans une approche littéraliste ou littérale de la révélation.
Absolument, Salaman n'est pas un croyant naïf, et il n'est certainement pas déprécié. On considère que c'est un croyant fervent, mais il lui rejette la solitude et rejette l'usage systématique de l'interprétation. C'est-à-dire qu'il est plutôt littéraliste. Il n'est pas intégralement littéraliste, mais l'idée c'est qu'on doit se tenir au texte tout de même tel qu'il est, sans chercher
dans
à trouver...
Dans son sens obvi.
Voilà, dans son sens obvi, et non pas pour chercher le latent, le caché, l'intérieur.
L'ésotérique.
Voilà, l'ésotérique qui est plus effrayant pour lui. C'est dans ce passage, dans ce mouvement interprétatif que Satan risque d'intervenir. Donc il s'en tient davantage à la lettre. Mais le texte précise bien que lui et ses compagnons sont tout de même des hommes sagaces, des hommes tout de même bien doués. Donc ce ne sont pas, ils ne représentent pas la grande masse, disons. Donc au fond, dans cette île, on doit faire une partition. Il ne s'agit pas de la masse ou du jumhur, sans nuance. Il y a quand même cette élite des croyants qui mène l'île, et le reste du vulgaire, le reste de la foule,
de la plèbe,
sur lequel Ibn Tufayl a des mots très très durs, parce qu'au fond, ils ont dévoyé la religion et ceux-là seront perdus. Mais le texte s'achève donc dans cette deuxième partie sur une sorte d'échec, en tout cas c'est la première lecture qu'on doit faire, d'échec du philosophe qui le conduit à regagner son île et non pas à convertir la religion vers la philosophie, ni à s'intégrer à cette société religieuse.
Mais la présence d'Apsal est à la fois pour lui une ouverture sur l'altérité, parce qu'il ne peut pas gagner en humanité s'il était que seul, d'une part, et d'autre part, ça montre que ce soit par la révélation métaphoriquement ou d'une manière métaphorique et allégorique interprétée ou par la spéculation philosophique, on arrive à une réalité ultime.
Oui, oui, c'est vrai, cette question de l'altérité est d'abord fondamentale, mais elle est ambiguë, elle est délicate à penser. Il rencontre l'autre, en vérité, il a déjà dans son intuition rencontré les autres âmes. Donc il connaît l'humanité, ce qu'il ne connaît pas, c'est le corps des autres hommes. Donc la rencontre d'Apsal, c'est la rencontre d'un corps qu'il ne connaît pas et qu'il n'identifie pas. Mais il est vrai qu'il a rapport à l'autre. La question, et puis, lorsqu'il discutera avec lui, il éprouve de la compassion. Donc il a un désir d'humanité, il a un désir de sauver les autres, un désir très fort qui dit quelque chose du rôle de la philosophie à l'époque, de la manière qu'a Ibn Tufayl de concevoir la fonction du philosophe. Pour autant, c'est ambigu parce que est-ce que ce couple avec Apsal est un véritable couple? Est-ce qu'ils font une société? Jusqu'où va la rencontre? Est-ce qu'il apprend véritablement quelque chose d'Apsal? Il apprend la langue, oui. Il apprend que le prophète de l'islam est vérace et que cette religion, l'islam, est vraie, ce qui n'est pas rien. C'est fondamental pour la suite du texte. Mais pour ce qui est de la réussite philosophique, pour ce qui est de l'accomplissement du philosophe, pour ce qui est de l'accès au bonheur et à l'intuition terminale, l'existence des autres hommes, l'existence d'une société, l'existence d'une religion dans cette société, tout cela, au fond, semble ne pas compter. Ce qui rend le rapport aux autres très délicat et qui écarte, par exemple, un Ibn Tufayl d'un Al-Farabi. Puisqu'Al-Farabi considère qu'au fond, le philosophe qui n'a pas la capacité de transmettre son savoir aux autres, et donc d'être un imam et un législateur, est un philosophe, et un roi philosophe est un philosophe avorté. Or, c'est cet avortement qu'on lit précisément dans le texte, mais Ibn Tufayl ne semble pas s'en soucier, c'est-à-dire que la philosophie échoue, mais peut-être que le rôle de la philosophie n'est pas dans la transmission du savoir pur, sous quelque forme que ce soit, dès lors que l'islam existe et peut sauver les mieux doués parmi les religieux. Donc il y a beaucoup à dire là-dessus. Le rapport à l'autre est central, il est ambigu. Et les leçons qu'on peut tirer, ça n'est pas pour rien d'ailleurs que dans l'histoire on a lu ce texte de différentes façons, les leçons à tirer sont diverses.
Oui. Est-ce qu'on peut déjà dire que dans un premier temps, l'important, c'est que dans cette Andalousie-là, c'est de dire qu'il n'y a pas une contradiction entre l'approche philosophique ou la démonstration philosophique et puis les données révélées. Ça paraît important. Et le second point, c'est que des notions telles que l'esprit, l'âme, etc., de vivant fils d'éveillé, il parvient lui-même, par ses propres notions, dans une approche théorétique, et qui est, par exemple, l'âme n'est qu'un souffle habillé ou enveloppé d'une enveloppe charnelle, et ça, il en prend connaissance dès la dissection du cadavre de, entre guillemets, sa mère, la gazelle.
Oui. Là aussi, vous avez raison, c'est-à-dire le premier thème, l'accord, si fondamental dans le Fasal Maqal d'Averroès, l'accord entre la religion, mais l'islam plus particulièrement, le traité décisif, oui, et la philosophie, c'est un élément caractéristique de l'Andalousie et un élément très fort chez Ibn Tufayl, puisque c'est bien ce qu'il constate en discutant avec ce disciple qu'est Apsal. Pour autant, on doit bien noter, et c'est fascinant, la différence avec Averroès. C'est-à-dire qu'Averroès, qui s'adresse au pouvoir pour expliquer au pouvoir que celui-ci a raison de soutenir la philosophie puisque celle-ci n'est pas contre l'islam et que le philosophe, d'ailleurs, n'a pas d'autre vie possible que celle de la société, Ibn Tufayl n'en tire pas la même conclusion. Il y a peut-être un accord avec la religion et la religion, du coup, permet aux religieux sincères de se sauver. Il reste que le philosophe, lui, n'a pas le désir d'intégrer cette société-là et il repart sur son île. Donc là aussi, il y a une singularité dans le traitement qu'Ibn Tufayl fait. Et je ne sais pas comment le prince, d'ailleurs, a pu recevoir ce texte. Parce qu'au fond, c'est une manière de dire que la société que ce prince organise n'est pas une société pour le philosophe qui a besoin, en dépit de la puissance de ce pouvoir et de l'accord avec la religion qu'il défend, qui a besoin du retrait. D'une forme de coupure et d'isolement. Donc ça, c'est une question. Puis sur le deuxième point, vous avez raison aussi, c'est-à-dire que C'est le récit d'une raison qui s'éveille d'elle seule par ses propres forces. L'idée, c'est que la réussite, elle est possible ici-bas et pas par grâce, donc pas dans l'au-delà et puis en vertu d'une illumination qui échapperait à l'explication philosophique. C'est vrai. Et l'exemple de la dissection est un beau passage parce que c'est quelque chose qui fascinera la philosophie moderne. Évidemment, ce rapport à l'expérimentation, l'idée qu'on découvre en mettant les mains dans la matière même, en entrant dans le corps et en violant d'une certaine manière le corps de sa propre mère, puisqu'on en extrait le corps et qu'on le cœur et qu'on le fend. Cela étant, là aussi, il faut être rigoureux philosophiquement. Cette île sur laquelle Haï s'éveille à la vérité est une île sans religion, une île sans société, une île sans livre et sans langue, mais ça n'est pas une île totalement déserte. D'abord parce qu'il y a les autres animaux, mais parce qu'en fait, il y a, entre guillemets, Dieu. Et c'est dans une sorte de face-à-face avec Dieu que cet éveil de la raison à elle-même se fait. La génération spontanée, ne l'oublions pas, n'est pas un processus autonome. Pour les philosophes de l'époque, ça n'est qu'une manière de manifester de la façon la plus pure qui soit la causalité verticale de Dieu sur toutes les choses. Donc, lorsqu'on a traduit au XVIIe siècle ce roman en utilisant l'adjectif d'autodidacte, il apprend de lui-même, oui et non. D'abord parce que c'est en se fondant sur une fitra qu'il hérite, et puis parce que cette fitra qu'il hérite,
la fameuse prime nature, cette fitra, il la doit
au premier agent de l'univers, sans lequel rien n'aurait lieu. Donc ça n'est pas une île sans l'agent premier.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de philosophie en contexte islamique, tout particulièrement en Andalousie. On est au XIIe siècle avec Ibn Tufayl et son conte, son roman philosophique « Vivant fils d'éveillé » avec le professeur Jean-Baptiste Brunet, professeur de philosophie arabe à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, médiéviste, spécialiste d'Averroès et de philosophie andalouse. Jean-Baptiste Brunet, vous avez posé la question, on ne sait pas comment le prince a-t-il reçu le texte lui-même, et puis, pour cette dernière partie de l'émission, comment a été la réception du texte dans d'autres contextes, et notamment en Europe ?
Alors c'est une question immense, fondamentale. Le texte a sa valeur en lui-même. Et comme tous les textes arabes, ils ont leur valeur propre et qu'on peut aussi penser en rapport à l'héritage grec qu'ils accommodent, qu'ils s'approprient, qu'ils reconfigurent. Mais il se trouve que ce texte est célèbre et fameux et remarquable par son destin. À la différence des textes d'Averroès de la même époque, il ne sera pas traduit immédiatement en latin, et donc la scolastique du XIIIe siècle, à Paris ou dans l'Europe occidentale, ne le connaîtra pas. Donc les grands maîtres de la scolastique l'ignorent absolument et vont bâtir sans lui leur système de génie. Le texte va être traduit en hébreu au XIVe siècle, une traduction anonyme, que utilisera l'averroïste juif important Moïse de Narbonne dans un commentaire qu'il fera en 1348. Puis, le texte sera traduit de l'hébreu au latin au siècle suivant par le célèbre Pic de la Mirandole. Alors, est-ce lui qui l'a traduit ou une équipe ou des collègues? On n'en sait trop rien. Mais cette traduction latine, la première, donc au XVe siècle, a peu d'effet. Elle circulera sans doute peu. C'est par un autre biais tout à fait inédit que la chose va se déplacer. C'est au XVIIe siècle que c'est Édouard Pocock, le grand arabisant d'Oxford, qui au cours d'un voyage en Syrie va exhumer un manuscrit du texte. On est dans les années 1640. Et ce manuscrit, il va le rapporter chez lui en Angleterre. Et c'est son fils qui l'éditera et le traduira. peut-être que son père a mis la main à la pâte et qu'il a bien aidé son fils dans l'affaire. Et le texte sort donc en bilingue, arabe-latin, en 1671 à Oxford. Et à partir de cette date, fin donc du XVIIe siècle, le texte va connaître un succès considérable. On peut véritablement parler de best-seller et dire que l'Europe lira peu de textes arabes avec autant d'avidité que celui-ci. Hein, le Coran et les mille et une nuits mis à part, ce texte est vraiment l'une des lectures de chevet de l'Europe des lettres. Pourquoi on le sait? Pourquoi on peut le dire? Eh bien, plusieurs exemples éditoriaux, tout simplement. Un an après l'apparition du texte en latin, il est traduit en néerlandais et il y aura 2 puis 3 rééditions néerlandaises de ce texte et l'on apprendra dans l'une des copies que la première traduction avait été faite par SDB, c'est-à-dire, pense-t-on, lu à l'envers par Baruch de Spinoza, qui en vérité n'avait pas traduit le texte lui-même, c'était probablement Baumeister, mais c'est dire que Spinoza a très certainement eu le texte devant lui. On est 6 ans avant sa mort, à peu près. Et puis le texte va être traduit en anglais, sur 15 ans, à 3 reprises, 2 fois à partir du latin, 1 fois à partir de l'arabe, chaque fois avec quelques caviardages, toujours significatif, quelques modifications, quelques ajouts aussi, quelques préfaces intéressantes qui disent ce que l'Europe de l'époque venait chercher dans un texte arabe, de façon très ambiguë, très ambivalente. Donc en 15 ans, ce texte, jusqu'à 1708, va connaître 3 éditions, un succès éditorial colossal. On sait que Pocock avait comme élève John Locke. On a une lettre de Leibniz qui parle de ce texte de façon très élogieuse. Et en 1719 sort le Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Nous n'avons aucune preuve directe, incontestable, que Defoe ait eu sous les yeux ce texte-là, mais la chose est à peu près évidente. Et de fait, au XVIIIe siècle, plusieurs textes anonymes littéraires se feront qui mêleront de façon très significative et notre Ibn Tufayl, notre Hayy ibn Yaqdhan, et le Robinson Crusoe de Defoe. Donc mêlant les 2 histoires. À partir du XVIIIe siècle, les traductions en langue vernaculaire, les langues européennes vont se succéder. En France, le destin sera un peu différent.
Une traduction. Un peu plus tard.
Oui, il y a une traduction d'un professeur du Collège de France au XIXe siècle, à l'époque de Renan, qui est inédite, mais que j'édite bientôt. Et puis c'est Gautier qui en 1900, puis en 1936, éditera le texte arabe de façon critique et livrera une excellente traduction française dont je me suis servi pour l'adaptation.
Et donc vous-même, vous reprenez le texte que vous adaptez, vous l'avez un peu ramassé et vous offrez au lecteur la quintessence.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un texte qui, par sa force poétique aussi, appelle un peu comme Avicenne le demandait déjà, sa réécriture, sa réappropriation. Puis comme enseignant et comme lecteur d'abord, j'ai eu envie de resserrer le texte et de le dire, de le proférer. Et donc en écrivant ce texte Robinson de Quadix, qui est un artifice évidemment, puisque comme vous l'avez dit, Robinson est postérieur, mais c'est une manière de mêler les différentes coordonnées, puis de réinscrire un texte arabe dans le jeu de la pensée mondiale, tout simplement. Eh bien, j'ai eu envie de resserrer le texte et puis de façon extrêmement fidèle, fidèle à l'arabe, fidèle au texte original, fidèle au récit des événements et aux enjeux théoriques, et en donnant la parole aussi au personnage qui nous dit son expérience, lui qui pourtant au départ n'a pas de langue.
Alors peut-être pour cette dernière partie vraiment ultime de l'émission, je vous poserai la question, je la pose au philosophe que vous êtes. Vous pensez que par la simple raison et par la spéculation, au sens premier du terme, d'essayer de voir et de voir au loin, on arrive à décréter qu'il y a un être nécessaire, wajibul wujub, un être nécessaire per se, par soi, non pas par autrui, per altrum, uniquement par la raison.
Alors, en tout cas, c'est l'une des thèses du texte et caractéristiques de cette philosophie, mais héritière d'Aristote. Au fond, ils sont les lecteurs de la fin de la physique d'Aristote, où par le mouvement, on remonte à une première cause du mouvement. tout pourrait partir de là, d'une certaine manière. Puis c'est ce qu'on appellera une sorte de théologie naturelle. Je suis capable de tenir un discours sur Dieu qui consiste d'abord à prouver qu'il existe, et puis à le qualifier, de façon au moins minimale, simplement en regardant autour de moi. Ce qui s'accorde assez bien, du reste, avec la théologie d'Ibn Tumart. Évidemment, ce sont des choses dont il faudrait parler si on avait le temps. Donc, c'est cette idée qui apparaît dans le cours du texte et qu'Ibn Tufayl défend, mais il ne faut pas oublier que cet homme ne part pas tout à fait de lui seul. On a ce désir. John Locke, dont je parlais tout à l'heure, parlait de cette blank page, la tablette vierge, qui serait le lot commun des hommes au départ, et que le rapport à l'expérience viendrait meubler. Et oui, nous sommes une table vierge, mais nous naissons doués d'une certaine capacité de réfléchir, inégale chez les individus. En l'occurrence, ce personnage caractérise le naturel philosophe. Et dans ce naturel-là, il y a déjà... s'exprime déjà une providence, un ordre du monde et l'intervention d'un agent premier. Donc, il ne faut pas inverser le schéma, ce serait une espèce de contresens théorique, et considérer que tout part du bas, de l'homme seul, de la matière, pour accéder au sublime. En vérité, cette dynamique-là, elle est orientée déjà par la fin. Donc, on pourrait, nous, modernes, vouloir voir les choses ainsi, mais je répète, ça n'est pas une île absolument déserte. Il n'y a pas d'homme, il y a un Dieu.
Merci infiniment, merci beaucoup Jean-Baptiste Brunet. C'était passionnant votre présentation, votre adaptation du roman philosophique, du conte Hayy ibn Yaqdhan, vivant fils d'éveillé d'Ibn Tufayl. Et vous êtes le Ibn Tufayl des temps modernes.
Merci.
En tout cas, vous l'incarnez, vous nous le présentez et nous vous en savons gré. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam et vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son était assurée aujourd'hui par Olivier Dupré et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.